Bertrand Zoutany, c'est un bonheur pour moi de vous rencontrer en interview après vous avoir vu en spectacle dans le cadre du 11e Festival interculturel du conte du Québec ici à Montréal. Alors j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais la première manière dont j'aimerais vous interviewer, c'est de vous demander, de raconter comment vous êtes devenu conteur. Et en commençant par « Il était une fois ».
Ben, il était une fois Bertrand Zoutany, sorti d'une famille de musiciens et de conteurs. Donc je vais quand même raconter à peu près comment je suis arrivé à ce métier de conteur. Mon grand-père était musicien, mon père était musicien, mes oncles paternels musiciens et ma mère racontait beaucoup. Je suis né au Congo, j'ai grandi, je suis resté au Congo jusqu'à 24 ans. Je faisais partie du Théâtre National du Congo. Je suis venu en France, j'habitais donc à Paris, pour venir parfaire mes études de théâtre. Finalement, en travaillant avec certains copains, on avait formé un groupe de musique, de danse d'Afrique centrale. On faisait des animations en direction des scolaires, on allait dans les écoles. Et une dame nous avait découvert, qui connaissait les Jeunesses Musicales de France, JMF, qui avait une exposition d'instruments d'Afrique et d'Asie. Ils nous ont demandé d'animer cette exposition en organisant des animations scolaires. Donc les écoles venaient, nous on faisait la démonstration de ces instruments, on expliquait de quels matériaux étaient fabriqués les instruments et comment ils étaient accordés et qui les jouait et dans quelles circonstances. Et puis ayant travaillé dans ce milieu-là, et puis après je me suis lancé dans le conte. Donc pour moi les choses sans remonter, bon, sans trop de problèmes pour maîtriser les instruments que j'utilise sur scène. Quoi.
Est-ce qu'on peut dire que le mélange, l'entrelacement entre le théâtre, la musique et puis le conte constitue le terreau, le vivier qui fait un conteur ?
De toutes les façons, tout dépend des traditions. Dans ma tradition d'Afrique centrale, un conteur doit être un artiste complet. Donc l'art du conte est un art total. Donc on demande au conteur d'être en même temps bon danseur, bon chanteur et bon musicien. Donc il est bon conteur aussi et il jongle avec tout ça pour essayer de ne pas lasser son public. Quand on parle traditionnellement, il n'y avait pas de télévision, donc la seule manifestation qui pouvait essayer de rassembler les gens, c'était le conte. Et le conteur était obligé vraiment d'être un excellent conteur pour pouvoir captiver l'attention de son public.
Dans la tradition de l'Afrique centrale, quelle est la fonction du conte ?
Alors, c'est très profond. Comme on est d'une tradition orale, les choses ne sont pas fixées d'une façon écrite. Donc les anciens s'arrangeaient de façon à pouvoir faire passer les messages ou l'éducation par le conte. Et un même conte, un enfant pouvait l'écouter plusieurs fois et à plusieurs degrés. Quand il avait 7 ans, il avait écouté le même conte. À 10 ans, il avait réécouté le même conte. Et petit à petit, il découvre ce qui était caché derrière le conte. Bon, quand il avait 7 ans, il se disait, tiens, mais ça parle de quoi ? Mais 10 ans, ah bon, le conte que j'avais écouté quand j'avais 7 ans voulait dire ça. Et puis à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, tout était caché derrière les contes. Et puis bon, ben, même pour les adultes, il y a des contes qui sont très profonds, qui essayent un peu d'apporter un message initiatique ou quelquefois de profondeur, comment se comporter dans la vie, comment arriver à se maîtriser, comment prendre la parole, comment donner une éducation aux enfants. Il y a tout ça, comme on n'avait pas des choses écrites, donc ce sont les vieux qui transmettaient ces contes et petit à petit, bon, ben, la relève se faisait à travers les contes.
Alors ici, je vous pose la même question, on est à Montréal, on est en Europe, ou on est en Amérique du Nord, on est dans d'autres contrées qui sont plus habituées au réseau social virtuel, à l'Internet, aux livres électroniques, à la télévision. Quelle est la fonction que peut remplir le conte dans ce monde-là ?
Tout dépend de la démarche des personnes qui veulent aller vers le conte. En ce moment, il y a une génération qui essaye de remettre le conte un peu d'actualité. Pour cela, ils découvrent plusieurs cultures en passant par le conte. Et pour les enfants aussi, ici, un enfant, c'est toujours un enfant quand il écoute un conte. Bon, ben, il y a son imaginaire qui fonctionne et il prend ce que le conteur peut lui donner. Et comme c'est une autre tradition, quelquefois, ils arrivent à éclater de rire en disant « c'est pas possible, mais le même conte chez nous, on le raconte comme ça, mais bon, moi, j'ai écouté ce conte-là, mais c'est fixé dans un livre, mais c'est presque pareil. » Donc, tout dépend de celui qui reçoit le conte et qu'est-ce qu'il veut en faire, mais en tout cas, le conte est toujours un enseignement et derrière, il y a toujours des profondeurs.
Alors, Bertrand Zoutani, comment avez-vous constitué votre répertoire à vous ? Ce qui devient, lorsqu'on parle de vous, on dit, oui, voilà ce qu'il nous raconte. Ça vous appartient à vous ? Vous vous l'êtes approprié ? Ou cela appartient à vos ancêtres dans la tradition des griots à laquelle vous appartenez ?
C'est-à-dire, j'ai puisé quand même dans la tradition, dans tous les contes traditionnels, comme ma mère racontait beaucoup. J'ai fait un travail de collecte vivant en France. Je me suis intéressé vraiment à ce travail-là d'une façon très sérieuse. Je suis retourné au Congo collecter des contes traditionnels auprès de ma mère. Et puis, comme c'était une famille où tout le monde racontait, on me racontait des petits contes sortis un peu du cercle familial que j'ai enregistré. Et je suis revenu avec pour les traduire ou pour que ça soit beaucoup plus audible aux gens qui ne sont pas de cette tradition-là. Mais des fois, comme je travaille dans des milieux scolaires, il m'est arrivé qu'on me fasse un projet sur des contes français. Comme Alphonse Daudet, par exemple, j'ai travaillé sur ces contes-là dans un cadre très spécifique. Comme j'habite une ville où on avait un statut de ZEP, zone d'éducation prioritaire, comme les enfants avaient des problèmes de lecture, et puis les enseignants ont préféré peut-être passer par le conte pour pouvoir donner envie aux enfants de pouvoir maîtriser la lecture. Et pour cela, j'avais maîtrisé quelques passages de certains contes d'Alphonse Daudet.
Alors, Alphonse Daudet, on en parle, c'est les bouches décousues, c'est ce projet-là que vous avez développé. Racontez-nous les bouches décousues.
Isabelle Guignard, qui s'occupe de la maison d'Alphonse Daudet, avait des projets, comme elle est propriétaire de la maison d'Alphonse Daudet, elle voulait faire des animations autour de cette maison, parce que Alphonse Daudet, quand il était propriétaire de cette maison, de ce lieu, elle faisait beaucoup d'invitations et autour, il se passait plein d'animations, de lecture, de certains passages de ses contes. Et puis, elle voulait mettre quand même l'animation autour de cette maison-là. Comme je la connaissais et qu'elle m'avait en parlé, moi, je suis conteur. Je lui ai proposé de peut-être lancer la nuit du conte. C'était un tout petit peu hésitant parce qu'on ne savait pas où on allait. Finalement, ça s'est mis en place et petit à petit, c'est vraiment bien ancré. Et tous les ans, il y a la nuit du conte, Madame Isabelle Guignard, la maison Alphonse Daudet, les bouches décousues. Donc ça fonctionne très bien.
Alors, on sait, j'ai beaucoup entendu parler de votre interprétation de la chèvre de M. Seguin, qui, paraît-il, est particulièrement spectaculaire. Vous nous en dites juste le début.
Alors, je ne sais pas. Tu seras bien toujours le même, mon pauvre Gringoire. Tu prétends rester libre à ta guise jusqu'au bout. Eh bien, écoute un peu l'histoire de la chèvre de M. Seguin. Tu verras ce que l'on gagne à vouloir vivre libre. M. Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne. Et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'était, paraît-il, des chèvres très indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave M. Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné. Il disait, « C'est fini, les chèvres s'ennuient chez moi. Je n'en garderai pas une. » Cependant, il ne se découragea pas. Et après avoir perdu 6 chèvres de la même manière, il en acheta une 7e. Seulement, cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune pour qu'elle s'habitue mieux à demeurer chez lui. Ah, Gringoire, quelle était jolie, la petite chèvre de M. Seguin, quelle était jolie, avec ses yeux doux, sa barbichette de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. C'était presque aussi charmant que le cabri d'Esmeralda. Tu te rappelles, Gringoire? Et puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans le cul, un amour de petite chèvre. Monsieur Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines. Celle-là, qu'il mit la nouvelle pensionnaire.
On va s'arrêter là. Vous n'avez pas tout raconté. On va s'arrêter là, comme ça. Voilà. On va s'arrêter là. C'était juste pour entendre, votre voix. Et alors, okay. je le dis pour les auditeurs qui ne vous voient pas, lorsque vous entrez en compte, je dirais, vous fermez les yeux et c'est comme si vous étiez dans un autre monde.
Tout à fait. Donc, moi, je vois les images, la petite chèvre qui arrive et M. Seguin qui est désespéré après avoir perdu toutes ses chèvres et puis mec qui ne se laisse pas abattre et puis voilà.
Alors comment se passe le transfert culturel? Vous êtes originaire du Congo Brazzaville, vous vivez en France, on est ici à Montréal, vous êtes comme tous ces conteurs que je rencontre ici, des vrais citoyens du monde, vous avez toujours une valise à la main avec les instruments et une autre valise avec les histoires. C'est quoi la vie d'un conteur? C'est une vie qui semble tout à fait magique dans une grande famille internationale.
Tout à fait. Donc pour moi vraiment le conte c'est un passeport, et puis bon ben ça me donne la possibilité de pouvoir créer une seconde famille, quoi. Les conteurs que je rencontre deviennent presque après des amis. Donc voyager, découvrir le monde, et puis pour moi, étant d'une autre tradition, les gens sont curieux parce que j'apporte une autre vision des choses tout en étant dans la famille des conteurs. Mais bon, ben, les conteurs ailleurs travaillent d'une certaine façon, d'autres d'une autre façon, ce qui fait que ça enrichit un peu nos rencontres, quoi.
Lorsque vous faites, et je reviens à un des points que vous avez évoqué, la collecte des contes dans votre pays, ou ailleurs d'ailleurs, est-ce que vous avez le souvenir de rencontres qui vous ont particulièrement ému, ou bien surpris, ou bien désarçonné?
Ah, ça c'est sûr, hein, tel que, bon ben, là, surtout au niveau des conteurs, il y a des conteurs que je découvre qui ont un talent extraordinaire. Je suis au Canada, dès qu'on a ouvert le festival interculturel, il y a eu un passage de plusieurs conteurs étant du même spectacle, mais j'ai vu vraiment des conteurs d'une très grande qualité et une autre façon de raconter les choses, mais tout ça, pour moi, ça m'éblouit, quoi.
Alors, la dernière question que j'aimerais aborder avec vous, c'est celle de la musique et des instruments de musique que vous transportez avec vous sur scène, que vous avez presque toujours avec vous. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de lien avec les ancêtres, la musique?
Ben, c'est pas compliqué, mais c'est un peu difficile à faire passer aux gens qui ne sont pas de cette tradition-là. Mon grand-père jouait du pluriarque, qui est un instrument à cordes, mais cet instrument ne voyage pratiquement jamais, et on le joue en musicothérapie le soir, à l'intérieur d'une case, dans un petit groupe donné de la famille, de la personne qui est malade. Mmh. Avant de rentrer en contact avec le monde invisible, le guérisseur joue d'abord cet instrument pour détendre le malade et ce n'est qu'après qu'il peut lui donner des plantes à boire. Moi, mon grand-père jouait cet instrument. Ayant vécu au Congo, je n'ai jamais su que mon grand-père en jouait. Et quand je me suis intéressé, en vivant en France naturellement, quand je suis retourné là-bas, mais je me suis intéressé aux instruments traditionnels, bon ben, en posant des questions dans mon petit cercle familial, ma mère me dit « Mais ton grand-père joue du pluriarque !» Mais comme j'étais sorti du groupe, vivant en France, on a demandé au grand-père, mais bon, ben, il est intéressé, est-ce que tu ne peux pas lui apprendre à jouer du pluriarque? Mon grand-père a refusé. Il a dit, mais non, c'est pas possible, il ne fait pas partie du groupe, et puis qu'est-ce qu'il va en faire? Bon, ben, cet instrument, on le joue pour telles occasions, des choses, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Bon, et c'était un conseil de famille, tout le monde a dit, mais oui, mais là-bas, il vit, va montrer aux Français des instruments qui viennent du Congo, et des choses comme ça. Finalement, il me restait un jour, j'étais parti là-bas pour un mois de vacances, il me restait un jour, il m'a montré comment ça fonctionne, comme j'avais collecté des petits morceaux de musique, et puis je suis revenu avec toute ma collecte, et j'ai travaillé vraiment d'une façon bien acharnée et je suis arrivé à maîtriser le pluriarque que mon grand-père ne voulait pas me laisser apprendre, quoi.
Et qui vous accompagne maintenant
dans
vos spectacles. Bertrand Zoutany, je vous remercie pour cet entretien et puis alors aussi pour tout ce monde que vous nous faites découvrir en nous racontant aussi bien que ce soit les contes de votre pays d'origine, le Congo-Brazzaville, ou que ce soit des contes comme ceux de Alphonse Daudet qu'on redécouvre dans votre voix très particulière. Merci Bertrand Zoutany.
C'était avec grand plaisir.